Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Alors j'aimerais vous parler d'un amoureux et de sa fiancée. Alors je pourrais prendre le Cantique des Cantiques qui illustre merveilleusement une histoire d'amour entre un jeune homme, deux jeunes personnes qui sont éprises l'une de l'autre. Parce que ce matin en fait j'aimerais vous parler de la fiancée de Jésus-Christ. En fait, nous. On lit dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé dit à sa fiancée « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Il n'y a point en toi de défaut. » Quelle belle description d'un homme qui aime sa bien-aimée, sa destinée, celle qui lui est destinée. Alors Dieu ne nous a pas donné le Cantique des Cantiques par hasard, c'est un hymne finalement à l'amour conjugal. Mais c'est aussi une déclaration d'amour de Jésus-Christ pour sa fiancée, l'Église. Et qu'est-ce que c'est beau quand on voit « Tu n'as point de défaut, lavé dans mon sang ». Lavé dans le sang de Christ, tu n'as point de défaut, ma bien-aimée, que tu es belle. Dieu aime le Fils et il lui a donné une épouse, l'Église. Et ce matin, j'aimerais qu'on évoque cette Église, Église de Jésus-Christ. On va prendre un premier verset pour introduire ce passage, c'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oui, ceux qui croient en Jésus-Christ sont des bénis du Seigneur. Parce que Dieu les a élus, donc il les a choisis, l'élection c'est ça, c'est un choix, avant la fondation du monde, pour faire partie de ses enfants et donc pour faire partie de son Église. C'est ce que Paul dit. Ça signifie que Dieu avait déjà dans sa pensée, avant la fondation du monde, il avait déjà dans sa pensée l'Église. Il la voyait déjà. Nous n'existions pas, mais Dieu nous voyait, Dieu nous connaissait et Dieu nous aimait déjà. C'est quelque chose, hein ? Dieu nous aimait déjà. Pourtant, il n'y avait rien. Pas un atome, pas une molécule, pas une cellule vivante, rien. Rien de la création. Et Dieu voyait son Église. Et Dieu, la voyant à l'avance, savait que librement, volontairement, éclairé par sa lumière, ils allaient répondre et faire partie de son Église. Mais Dieu a vu aussi que ça ne pourrait exister qu'au prix d'un immense sacrifice, puisqu'il fallait que Dieu le Fils lui-même descende dans une chair comme la nôtre et qu'il subisse le jugement du péché, afin de pouvoir se racheter cette Église d'un peuple pécheur, les hommes sont pécheurs, se racheter une Église, se racheter un peuple et faire son peuple. Et Dieu a tout vu à l'avance et il a accompli son plan. Il a créé le monde, il a laissé l'homme aller dans sa propre voie, dans la désobéissance. Ensuite, il a préparé petit à petit le salut, il a choisi un peuple et au travers de ce peuple, il a donné la loi. Il a travaillé le cœur des hommes, il leur a montré leurs péchés, et puis finalement il a accompli ses promesses, il a envoyé le Messie qui est mort, qui est ressuscité et qui reviendra nous chercher. Tous ceux qui croient en lui aujourd'hui peuvent devenir des enfants de Dieu, faire partie de l'Église. Alors j'aimerais qu'on voit ce matin cinq choses. On va voir l'origine de l'Église, on va voir ce qu'elle est, en elle-même, sa nature, on va voir son fondement, on va voir son fonctionnement et puis finalement sa fin. Alors tout d'abord, quelle est l'origine de l'Église ? Bien sûr, ça commence à la Pentecôte. C'est le tout début de l'Église. La naissance de l'Église, elle a eu lieu, on peut dire, à le jour de la fête des semaines, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Et c'est là que s'est accompli un miracle, puisque Dieu a envoyé son esprit qui est venu remplir le cœur des premiers disciples qui étaient là rassemblés et qui attendaient, selon ce que Jésus avait dit, ils attendaient eh bien, l'esprit qui devait descendre sur eux. Baptiser, ça signifie immerger, plonger. Et les disciples qui étaient rassemblés en prière, ils ont été soudain immergés, plongés dans le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit est entré, les a immergés intérieurement. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils avaient maintenant l'Esprit de Dieu en eux. Ils étaient scellés pour l'éternité. Quand Jésus, dans les évangiles, souffle sur eux, et dit « Recevez l'Esprit ». Si vous vous souvenez de ce passage, quand il a dit ça, c'est pas là le commencement de l'Église. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore présenté son sang, n'avait pas encore fait l'expiation. Et donc le Père ne pouvait pas encore envoyer l'Esprit. Mais une fois que Jésus est monté au ciel, qu'il a présenté son sang, le Père a agréé le sang, il a accordé le pardon, il a envoyé le Saint-Esprit qui est venu baptiser l'Église. Ça, c'est la naissance de l'Église, c'est son enfantement. Mais l'Église n'était pas encore complètement formée. Pourquoi ? Il manquait quelque chose, en fait. C'était un bébé, là. C'est que, en fait, cette Église qui venait de naître n'était formée que de Juifs. C'était tous des Juifs. Les apôtres, les premiers chrétiens. Et même lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, se met à aller à prêcher dehors, dans Jérusalem, il prêche à qui ? À des Juifs. Et puis les premiers chrétiens qui se convertissent, ben, c'est des milliers de Juifs. Donc c'était plein de Juifs. Mais il fallait que Dieu eh bien, vienne aussi greffer les païens. C'était la promesse qu'il avait donnée. Alors, eh bien, on lit dans Matthieu que Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est que ces clés, en fait ? C'est que ben, Pierre, juif, va prêcher aux juifs et va ouvrir la porte du salut aux juifs. C'est la première clé. Il ouvre le salut aux juifs en sortant dès ce jour de Pentecôte, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et puis, un petit peu plus loin, eh bien, il va y avoir des Samaritains qui ont cru au Seigneur Jésus. Les Samaritains, c'était un mélange de juifs et de païens. Ils avaient cru au Seigneur Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et Pierre arrive, il leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre encore ouvre la porte pour ce mélange de juifs et de païens. Et puis quelques temps plus tard, c'est Corneille. Corneille, homme pieux, qui a entendu, Dieu a entendu ses prières, et Dieu permet que Pierre eh bien, vienne lui prêcher l'Évangile. Et là, il est rassemblé avec, il y a Corneille et ses amis, tous païens, et là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça y est, Dieu ouvre la porte aux païens. L'Église, ça y est, elle est formée. Le corps, là, est formé, constitué de juifs et de païens ensemble. Et maintenant, il ne restait plus que le développement. Il fallait que maintenant, de ce bébé, ce petit enfant, eh bien, ça commence à croître, grandir et se développer. C'est ce qui s'est passé durant ces 2000 ans d'histoire derrière nous. Maintenant, quelle est la nature de l'Église ? Qu'est-ce qu'est l'Église ? On vient de voir, c'est une union de juifs et de païens réunis ensemble, mais c'est avant tout un groupe de personnes. À tort, on appelle souvent le bâtiment l'Église. Moi-même, je dis à Kimberly, bon, je vais à l'Église. Voilà. Et vous aussi, peut-être. Hein, vous dites, je vais à l'Église. Et c'est vrai, à tort, on appelle le bâtiment l'Église. Et certains en sont venus à faire en sorte, enfin ils ont cru que ben, le bâtiment avait une importance, mais alors extrême. Alors c'est pas le bâtiment qui est important, on le sait. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Et tout à l'heure, dans 2 heures, on va se quitter, on va fermer la porte. Dieu va pas rester ici et nous attendre jusqu'au dimanche prochain. Non, il y aura personne ici, hein. C'est clair, même si Dieu est partout. On lit dans le livre des Actes, Actes 17 et verset 24... Il est dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas ici, pas plus qu'il habite ailleurs dans un autre bâtiment. Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de main d'homme. Dieu est esprit et Dieu dépasse les lieux. Alors, qu'est-ce que l'Église ? Ce sont tous les croyants qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. C'est donc quelque chose qui dépasse les dénominations. Ça dépasse les noms d'Église. Ce n'est pas un nom, une étiquette ou un credo particulier. Mais ça dépend simplement d'une conversion à Jésus-Christ. C'est ça qui constitue l'Église. Des personnes qui croient au Seigneur Jésus et qui deviennent enfants de Dieu. Il est encore écrit en Actes 3:19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et là, on voit deux choses. Il nous dit de se repentir, une repentance. On demande sincèrement pardon à Dieu pour toutes nos fautes qui nous sont révélées, tous nos péchés. Et puis, il y a une conversion à Jésus-Christ. On croit, on saisit Jésus-Christ pour son Seigneur, pour son Sauveur. On l'accepte. Il y a un demi-tour. On se tourne vers lui volontairement. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Alors, vos péchés seront effacés. Dieu nous lave, Dieu nous purifie dès qu'on l'invoque avec sincérité. Et tout cela, tous ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis à Jésus-Christ, eh bien c'est l'Église. Ils sont l'Église de Jésus-Christ puisqu'ils sont nés d'en haut. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'Église ? C'est aussi un corps. Regardez 1 Corinthiens 12 et versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et donc, l'Église est un corps, et les chrétiens, chaque chrétien, est un membre de ce corps, comme un corps a des bras, a des jambes, a un cœur, a des poumons. Eh bien, le corps de Christ a des membres qui sont différents, qui ont des fonctions différentes, qui agissent et qui permettent de faire vivre, d'évoluer, de faire agir ce corps. C'est le corps de Jésus-Christ. Et de la même manière qu'un corps humain, eh bien, ne peut être contrôlé que s'il y a une tête, eh bien, il y a une tête. C'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il est dit. Jésus-Christ est la tête. Il est celui qui gouverne. Il est celui qui donne les ordres. Il est le chef. Qu'est-ce que c'est encore l'Église ? L'Église, c'est un édifice fait de pierres vivantes. Regardez 1 Pierre 2 et verset 4. 4 et 5, il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ est cette première pierre vivante, il est dit, c'est la pierre d'angle sur laquelle repose tout l'édifice qui se construit. Et les chrétiens sont des pierres vivantes qui viennent s'édifier sur cette première pierre. Et de pierre en pierre, eh bien Dieu se fait une maison. C'est sa maison spirituelle, il dit un saint sacerdoce. Donc plus besoin de temple, le temple c'est les chrétiens. Nous sommes le temple de Dieu. Et il dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu de mon temple. Je suis au milieu d'eux. Plus besoin non plus de sacrificateurs. Avant, dans l'Ancien Testament, il fallait des prêtres qui permettaient d'accéder à la présence de Dieu. Terminé. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous prêtres pour l'Éternel. Tous, nous avons accès à Dieu. Tous, nous pouvons lui offrir des sacrifices, des victimes spirituelles qui lui sont agréables. On peut prier, on peut intercéder, on peut partager, adorer, on peut louer Dieu ensemble. Et ce sont des sacrifices qui lui sont agréables. Qu'est-ce que l'Église aussi ? C'est des chrétiens actifs et pratiquants. Chrétiens pratiquants. Un enfant de Dieu qui ne pratique pas sa foi, c'est-à-dire qui n'a aucune vie spirituelle concrète, pas de communion fraternelle, pas de prière, pas de louange, pas d'intérêt pour la Bible, pas de lecture de la Bible, il n'y a rien. Eh bien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est actif. Il vit sa foi d'une manière réelle, d'une manière concrète. Je jette un pourcentage au hasard, mais je ne sais pas, 80-90% des enfants de Dieu sont pratiquants, de fait. Et quand quelqu'un ne l'est pas, eh bien c'est souvent un passage creux dans sa vie. Ça ne dure pas. Un moment, il peut y avoir parfois un passage creux, mais finalement on revient au Seigneur, parce que c'est la vie. On appartient à Jésus-Christ, hein, et il nous attire vers lui, vers son corps, vers sa vie. Maintenant, quel est son fondement? Quel est le fondement de l'Église? Éphésiens 2 et verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église, un temple saint, hein, a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire quoi? Sur l'enseignement que nous ont laissé les apôtres et les prophètes. Voilà. Ça, c'est le fondement. L'Église a été fondée dessus. Elle repose sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est vrai que toute l'Église se construit sur la parole divine. On peut dire que la Bible est notre manuel de vie et de survie parfois. C'est notre manuel de vie. C'est une lumière, c'est une boussole qui nous montre le chemin à prendre. C'est un guide, c'est un mode d'emploi, c'est une nourriture, c'est une eau fraîche, c'est du miel qui, voilà, comme quelque chose qui vient nous... Oh, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon. C'est aussi la vérité qui libère, qui délivre, qui affranchit nos cœurs. Elle nous montre le ciel, elle nous donne de l'espérance, elle nourrit, elle fortifie notre foi. Elle est aussi une épée qui permet de combattre et de nous défendre. Elle nous console, elle nous relève, elle nous pousse de l'avant. Elle juge aussi, elle tranche, elle nous reprend, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous instruit. Elle est la voix de Dieu qui est claire et pertinente. Elle n'est pas plus pertinente que si Dieu nous le disait comme ça. Si Dieu nous parlait, ça ne serait pas plus clair que ce qui est écrit ici. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et notre vie et notre foi reposent sur cette parole sainte. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Ça signifie qu'elle-même repose sur la personne de Jésus-Christ. La Bible est centrée sur Jésus-Christ. C'est lui qui est le thème. De la première à la dernière page. Il est le centre, il est le cœur, il est le but de la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et la Bible, elle vient de lui et elle est également pour lui. Et on peut dire que l'Église, elle est christocentrique. Christocentrique. Christ est au centre. J'ai écouté un témoignage avec Kimberly d'une personne qui s'est convertie aux États-Unis, qui était dans une secte. Et tout était centré sur les personnes. C'était eux le centre. C'était la communauté le centre. Et quand, eh bien, petit à petit, Jésus-Christ l'a attirée, elle s'est mise à relire la Bible avec un désir de chercher la vérité. Elle est venue dans une église et là, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a vu que c'était christocentrique. Christ était partout. Christ était dans les chants. Christ était dans les prières. Christ était dans la parole. Elle s'est mise à pleurer. C'était la délivrance pour elle. L'Église est christocentrique. Parce que Jésus est notre trésor. C'est notre bien le plus précieux. C'est notre salut. C'est notre raison d'être. Notre raison de vivre. On lit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est notre sagesse. On n'a pas de sagesse en nous-mêmes. Je veux dire, bien sûr, on peut bien raisonner, mais on a besoin de lui en toute chose. Il est notre sagesse. C'est lui qui éclaire notre vie et notre chemin. Il est notre justice. Pas de justice en nous-mêmes. Des fois, on se dit, oh, moi, je ne suis pas un grand pécheur. Dieu dit, tout le monde est pécheur. Tout le monde est coupable. Tout le monde est condamné. Soit tu viens te blottir en Jésus-Christ, soit tu n'as pas de justice. Tu es coupable. Tu es perdu. Jésus-Christ est notre justice. Si on vient se cacher en lui, alors on est protégé. Jésus-Christ est aussi notre sanctification. Nous sommes des saints, appelés saints, mais simplement parce qu'on est caché en Jésus. Alors nous sommes saints. Il nous regarde au travers de son Fils et oui, nous sommes saints. Il est notre sanctification. C'est en lui que nous pouvons marcher dans la sainteté. Et puis il est aussi notre rédemption parce que, eh bien, il nous a rachetés et nous lui appartenons. L'Église est donc de fait christocentrique. Jésus, c'est le plus beau nom. Ensuite, quel est son fonctionnement ? L'Église, comme c'est un corps, eh bien, il y a une organisation, il y a un fonctionnement. Maintenant, l'organisation telle que l'homme l'imagine, c'est une organisation pyramidale, avec un organisme central tout en haut, qui domine et qui ordonne. Et forcément, parce que l'homme est limité. Donc si on imagine quelque chose qui est grand, qui est vaste, qui est national, voire international, comment c'est possible de conduire une telle chose? Alors, eh bien, il imagine d'une manière pyramidale. Par exemple, une société du monde, ben, il y a un président, directeur général qui est tout en haut. Et puis, il y a des responsables internationaux et nationaux. Et puis, il y a des directeurs régionaux, des responsables par ville, puis des agents, puis après, tous les exécutants qui sont sur le terrain. Voilà, c'est très pyramidal. Et quand le PDG décide d'une chose, par la communication, ça arrive jusqu'en bas. Mais Dieu, lui, Dieu qui est la tête, qui est le chef, il n'est pas limité, lui. Il n'a aucune limite, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans la puissance, ni dans l'autorité. Dieu est partout, en même temps, et dans le cœur de tous ses enfants. C'est merveilleux. Qu'il soit à Perpignan, à Paris, à Rome, à New York ou ailleurs, Dieu est partout. Et donc, il n'y a pas un système pyramidal prévu dans les Écritures. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit plutôt des églises locales, plein d'églises locales, qui vont partager, qui vont communier, qui vont échanger entre elles, chacune s'autogérant par elle-même. Il y a deux semaines, on avait regardé 2 Corinthiens, on avait lu tout un passage, mais on n'avait pas trop mis l'accent sur certaines choses. Et dans ce passage, Paul disait « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Dans les églises de la Macédoine. Donc il nomme un lieu, une région, et il nomme des églises. Et il dit « Mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans toutes ces églises. » Et la Bible, elle nous montre bien sûr qu'il y a une église qui est universelle. C'est l'église de tous les temps qui englobe tous les chrétiens de partout. C'est l'église universelle. Mais celle-là, elle est invisible. On ne la voit pas. On ne voit pas tous ces chrétiens en même temps. Par contre, les églises locales, elles sont visibles. Les églises locales, eh bien, il y en a plein. Des milliers, des millions. Et ce sont elles qui représentent le peuple de Dieu sur la terre. Lorsque Paul a écrit à Corinthe, il a adressé sa lettre comme suit. Il a dit « À l'église de Dieu qui est à Corinthe ». L'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église locale de Dieu qui est à Corinthe. Et donc l'église universelle, elle est constituée de voilà, tout un chapelet immense de plein de petites églises locales. Et on voit dans la Bible cette autogestion de chacune des églises et des églises aussi ensemble. Les églises de la Macédoine vont décider de faire un don. Les églises de l'Achaïe également. Certaines vont dire, ben, on va envoyer un missionnaire. On voit ça dans l'église d'Antioche. Ils ont pris une initiative poussée par le Seigneur. Regardez, acte 13. Et on va lire les versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit une église qui est organisée, une église qui est mature. Elle est composée de prophètes, de docteurs. On rappelle qu'à l'époque, la Bible n'avait pas été terminée, achevée. Elle n'était pas complète. Et donc, on comprend bien qu'il y avait aussi tous ces prophètes qui venaient eh bien, apporter toutes les vérités qui étaient nécessaires pour le fonctionnement de l'Église. Et puis, il y avait d'autres hommes, des anciens, des responsables, des docteurs. Et c'est dans ce contexte-là, d'une Église mûre, que Dieu décide par son esprit d'envoyer Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, dit-il. Et donc c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui envoie certains pour partir ailleurs. Il n'y a pas de hiérarchie ici. C'est Dieu qui est la tête. C'est Dieu qui commande. C'est une assemblée locale organisée mais qui reçoit des ordres de Dieu directement et qui obéit. Et même si ces églises, à l'époque, étaient encore très dépendantes des apôtres, on le voit lorsqu'il y a eu un problème avec la circoncision. C'était les églises donc païennes hein, qui se posaient la question, parce qu'il y avait ces juifs qui disaient « mais il faut être circoncis », etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont envoyé Paul et Barnabas pour aller à Jérusalem et s'enquérir de cette question. Et c'est normal, la Bible n'était pas achevée. Alors, eh bien, ils ne savaient pas quelle décision prendre. Et donc, ils ont envoyé Paul et Barnabas pour s'enquérir. Et puis, les apôtres ont apporté une réponse. D'ailleurs, ce n'est pas Pierre qui a conclu, c'est Jacques. Jacques a conclu, voilà ce qu'on va envoyer aux églises païennes. Mais une fois que la Bible était achevée, ben ça y est maintenant. Hein, si vous voulez savoir ce que Dieu dit sur la circoncision, lisez Galates. Voilà, vous avez les réponses. Dieu a donné toutes les réponses qui sont nécessaires. On voit aussi que Dieu a fait des dons aux hommes, c'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 4. Hein. Ces dons sont des personnes. Il a donné des apôtres, il a donné des prophètes, on l'a vu, qui ont posé le fondement. Et puis ensuite, il a donné des évangélistes, il a donné des pasteurs, il a donné des docteurs pour venir bien poser et enseigner et paître le troupeau. Et donc chaque église s'organise autour bien de ces hommes, pasteurs, docteurs. Et l'Église va s'autogérer elle-même d'une manière congrégationaliste. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare, hein ? Congrégationaliste, hein ? Ça signifie que l'autorité et les décisions finales dépendent de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui décide ensemble de toutes ces choses qui sont importantes, hein, toutes les grandes décisions. Et c'est ainsi que fonctionnaient les premières églises. Chaque église locale décidait ensemble. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder l'étymologie du mot église. Église, ça vient du grec, ecclésia. Ecclésia qui signifie appeler hors d'eux. Et une ecclésia, c'était à l'époque, par exemple à Athènes, c'était l'assemblée des citoyens d'Athènes. Et chaque fois que c'était nécessaire, on appelait les citoyens à une église, une assemblée. Et tous les citoyens, 40 000, se rassemblaient et on prenait des décisions. En réalité, tout le monde ne venait pas, il y avait de l'absentéisme. C'est partout, hein, même dans les églises. Mais ils décidaient ensemble. Ils décidaient ensemble, ben, ils décidaient par exemple de lois, ils décidaient d'une guerre, ils décidaient d'un bannissement. Hein, le fait de mettre dehors une personne, il y avait ça également. Plein de décisions, aussi des responsables. Et chaque ville s'auto-administrait elle-même. Et Jésus a pris ce terme et il a dit, voilà, c'est mon assemblée, c'est mon église. Qu'est-ce que ça suggère ? C'est qu'aussi, elle va s'auto-gérer elle-même. Il n'y aura pas de système qui centralise et qui commande. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas concentré dans une seule dénomination qui détiendrait toute la vérité. Non. Non. En fait, la vérité, elle est partout où Jésus-Christ s'est fait un peuple qui se base sur la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu. Dieu n'est pas enfermé dans une église. Il est partout où la vérité est prêchée. Il est dit, Jésus dit, ta parole est la vérité. Et ainsi, toute assemblée qui suit la Bible est dans la vérité. 1 Timothée 3, 14 et 15. Et versets 14 et 15. Il est dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul parle ici d'une église locale, là où était Timothée. Il faut se souvenir, l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'était l'ensemble des croyants qui étaient là. Voilà, quand deux ou trois se rassemblent, je suis au milieu d'eux. C'est l'église locale. Et il dit que c'est une maison de Dieu, un temple saint pour le Seigneur. Et il l'appelle l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Et il rajoute, l'église locale est la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'assemblée locale, elle repose et elle est gardienne de la vérité. Qui défend la vérité? Qui proclame la vérité? Qui protège la vérité? Qui l'enseigne? Qui l'explique? Qui l'expose? C'est l'Église dans sa localité, dans toutes les localités. Elle est comme un phare qui éclaire dans la nuit. Elle est un témoignage. Elle repose, l'Église repose sur la vérité. Et Jésus a même dit que les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que les portes du séjour ne vont pas réussir à avoir l'avantage sur l'Église. L'Église va arracher des morts, va sauver des âmes. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Vous me direz, mais toutes les églises prêchent pas toujours la même vérité. Certes, c'est une réalité aussi, hein, mais la vérité dans les Écritures, elle est quand même commune à toutes celles et ceux qui croient de la même manière au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un tronçon commun pareil. Nous croyons tous à Dieu le Père. Nous croyons tous à Jésus-Christ venu offrir sa vie pour nos péchés. Nous croyons tous que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Nous croyons tous que nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous l'acceptons dans notre cœur. Tout cela croit la même chose sur le jugement, sur le retour de Jésus, et c'est l'Église de Jésus-Christ. Et je termine avec une dernière chose. Quelle est la fin de l'Église? La fin, c'est un mariage. On va vivre un mariage, tous ensemble. Ça va être merveilleux. Joseph l'a évoqué tout à l'heure, les noces. Hein. Et l'Église est comparée dans les Écritures à une épouse. Nous sommes une épouse. L'assemblée des enfants de Dieu est donc une épouse pour Jésus-Christ. Et Dieu est en train de se former cette épouse, puisqu'il continue à ajouter des nouveaux croyants, de nouvelles personnes, des nouvelles âmes, des nouveaux repentis. Et j'aimerais, pour terminer, lire un passage de Matthieu. Matthieu 22, et on va lire jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes maîtres grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces !» Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et cette parabole n'est pas difficile à comprendre maintenant que nous sommes à la fin des temps. Le roi, c'est Dieu, bien sûr. Il invite aux noces de qui ? De son Fils, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Mais beaucoup refusent. Ça n'empêche pas Dieu de continuer à inviter et d'inviter partout, dans les chemins, partout. D'autres essayent de venir à ce repas de noces, ici comme cette personne, mais ils ne passent pas par, voilà, pas par la manière, je ne sais pas, officielle ou la manière dont il faut. Ils essayent de venir par une porte dérobée, par peut-être leurs propres idées, leurs propres doctrines, leurs propres moyens. Ils se disent, mais tous les chemins mènent au ciel. Et à ce moment-là, le résultat, c'est qu'ils se retrouvent sans habit de noces devant Dieu. N'étant pas passé par Jésus-Christ, il n'est pas revêtu de la justice de Jésus-Christ. Il n'a pas cet habit de justice. Il est nu, pécheur, devant Dieu. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il est rejeté. Il est exclu dans les ténèbres du dehors. Jésus-Christ est la seule solution. Mais celui qui entend, celui qui se repent, celui qui croit au Seigneur Jésus, alors, eh bien, Dieu fait de lui son enfant. Il le revêt de sa justice. Et il aura part aux noces de l'agneau. Il va vivre ce moment merveilleux, cette table du Seigneur, où tous les enfants de Dieu de tous les temps seront réunis autour du seul Seigneur, de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et nous prendrons part avec joie à ce moment glorieux. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Est-ce que vous faites tous partie de cette épouse ? Est-ce que vous serez tous aux noces de l'agneau ? Je vous invite à vous poser cette question. Sinon, si vous n'êtes pas convaincu, alors vous connaissez le chemin, la repentance sincère et la foi sincère en Jésus-Christ.